Chapitre 23. De quoi voulez-vous que je vous parle ?
De Suzy.
Je l'aurais parié. Il eût été troublant qu'il ne se demande pas d'où elle venait, et pourquoi je vivais seule avec elle, sans qu'elle ne parle jamais de son père. Alors j'ai évoqué Justin, le beau Justin, le grand Justin, le salaud de Justin. Mais avant, je me suis resservi un verre de vin rouge, que j'avais ouvert après son cabernet d'Anjou. Un petit remontant avant de descendre touillé dans mes souvenirs glauques et répugnants. Il en a repris aussi, mais lui, par pur plaisir. Et là, je me suis dit que si on réattaquait sa bouteille au dessert, il ne serait plus en état de conduire. Il y a 6 ans, peu après mon installation, la coopérative d'insémination s'est restructurée. Et c'est un nouvel inséminateur qui a pris la tournée et qui passait au hautbois. Il faut croire qu'on s'était tapé dans l'œil, parce qu'au bout de la 3e fois, il a commencé à me sortir le grand jeu. J'étais charmante, intelligente. Il avait plaisir à préparer sa tournée quand il savait que j'en faisais partie. Il s'arrêtait toujours pour boire un café et parler de tout et de rien. On a fini dans le foin. Et pendant 5 mois, j'y ai cru. Quand il m'a avoué qu'il était marié et père de 2 enfants, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit que cela puisse poser un problème. J'étais sur mon petit nuage, et je l'aimais sincèrement. Quand je voyais une vache en chaleur, je bouillonnais moi-même à l'idée qu'il allait passer dans l'après-midi. Je finissais vite mon travail, j'allais me doucher et je l'attendais. On a fait l'amour partout dans la ferme. C'était toujours rapide, sans beaucoup de tendresse, parce que ça prenait du temps dans sa tournée. Moi, je me disais à chaque fois que ce serait mieux à la prochaine. Il me disait qu'il ne voulait pas quitter sa femme, parce qu'elle lui faisait des bons petits plats et que, rien que pour ça, il n'imaginait pas sa vie sans elle. Pauvre type. Et puis, il y avait les enfants, la maison à payer. Le schéma classique du bon père de famille. Avec une petite maîtresse pour se changer les idées et oublier une femme autoritaire, jalouse, à la libido en berne. Pour se rassurer également sur sa capacité de séduction et d'érection. Moi, je m'en fichais. J'étais bien avec lui, du moins je le pensais. Je ne songeais pas à l'avenir. Quoique si, je commençais à y penser. J'avais envie d'avoir un enfant, et je trouvais que c'était le bon moment. Mais je ne lui en ai jamais parlé. J'attendais qu'il prenne le temps. Nous avons continué à nous voir au moins 2 fois par semaine, au rythme des chaleurs de mes vaches. Romantique, n'est-ce pas? Et puis, un jour, c'est un vieux barbu qui est venu pour inséminer la 3312. Il a dû se dire que je sentais drôlement bon pour une agricultrice en pleine journée. Et moi, je me suis sentie mal. Très mal.
Il ne vous a pas prévenu qu'il changeait de secteur? Oh! Pourtant, on en profite généralement pour le faire à la dernière tournée.
La dernière tournée? Il ne viendra plus?
Ah non, madame. Il est parti à l'autre bout du département.
Et là, j'ai su que le type avec qui je m'étais envoyée en l'air pendant 2 mois, croyant qu'il m'aimait, était un gros salaud, égoïste et lâche. Je me suis précipitée sur mon téléphone, mais il n'a pas répondu. Le jour même, j'avais une lettre dans la boîte, écrite sur un bout de papier à moitié déchiré, avec l'entête de la coopérative. Il voulait tout arrêter parce que sa femme avait trouvé un cheveu bouclé sur son pull.
Et tu comprends, je ne voudrais pas la perdre.
Il était quand même content d'avoir pris du bon temps avec moi. Même pas désolé. Aucune excuse pour la façon de s'enfuir. Il coupait le son, comme on éteint son poste de radio quand l'émission est finie. Le seul soulagement ressenti à ce moment-là est que je prenais encore la pilule. Avec le recul, ça m'aurait rendu malade d'être enceinte de ce sale type. Ce jour-là, j'ai fait la traite du soir, j'ai fermé la maison à clé, et je suis partie avec Albert en courant à travers champs jusque chez Antoine. 3 kilomètres sans m'arrêter, ni de courir, ni de pleurer. Il m'avait pourtant prévenu. L'inséminateur passait aussi chez lui.
« C'est pas un mec pour toi, Marie. » Il est louche, je le sens pas.
Et quand Antoine ne sentait pas un homme, il y avait de bonnes raisons de le croire.
Pourquoi ?
Me demanda le lieutenant. Vous ne savez pas ?
Non. Je ne sais pas quoi.
Pourtant, il ne s'en cache plus.
Il est médium ?
Non ! Quoique, parfois.
Agent des services secrets ?
Non, non. Juste homosexuel.
Et alors ?
Et alors, à chaque fois qu'un même type arrive dans nos vies respectives, vendeur d'aliments, inséminateur, contrôleur laitier, commercial divers, on se donne nos impressions. Et elles sont toujours semblables, tant sur le physique que sur le caractère.
Et qu'est-ce qu'il pense de moi ?
Vous, c'est trop tôt. Nous sommes en phase d'observation. D'ici 2 ou 3 semaines, nous devrions pouvoir rendre un avis. Après cette remarque, je l'ai vu faire une drôle de tête. Il ne savait pas trop si je plaisantais ou si, vraiment, nous étions en train de l'étudier sous toutes les coutures pour préparer notre compte-rendu. Alors, pour qu'il ne me pose pas trop de questions qui m'obligeraient à lui avouer que je ne plaisantais pas, je lui ai raconté la suite. Je pleurais tellement en arrivant chez Antoine qu'il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Mais il s'est douté. Ça devait bien arriver et, d'après lui, il était grand temps. Il m'a déshabillée et mise sous une douche chaude 10 bonnes minutes pour me calmer. Il était trempé. Il m'a enveloppée dans un grand peignoir moelleux, a enfilé des vêtements secs et nous nous sommes couchés près du feu, sur le canapé du salon. Il paraît que j'ai pleuré jusqu'à 3 heures du matin. Il m'a réveillée en m'apportant un grand café et du pain frais. J'avais du mal à ouvrir les yeux tellement ils étaient gonflés. Et j'ai quand même vu l'horloge. 10 heures du matin. J'ai fait un bond, mais il m'a recouchée. Il s'était levé à 5 heures pour aller nourrir ses allaitantes et avoir le temps de traire mes vaches. Un amour. Mes yeux ont mis une semaine à retrouver leur aspect normal. J'ai imaginé aller casser la figure à l'autre salaud ou tout dire à sa femme. Pas par vengeance, par solidarité. Pour lui ouvrir les yeux, lui dire de se barrer en courant. Mais ce n'était pas mon problème. Je n'ai rien fait. La vengeance, ça ne sert à rien, me disait Antoine.
Ça défoule, lui rétorquai-je.
Fais du béton pour te défouler, ça te fera moins mal et ça t'avancera dans ton travail. C'est ce que j'ai fait. J'ai abattu une sacrée quantité de boulot dans les semaines qui ont suivi. Antoine est venu me tenir compagnie tous les soirs. On a parlé, parlé, parlé. Il a compris que j'avais mis un espoir fou dans ce type. Parce qu'au fond, mon désir profond, c'était d'avoir un enfant.
Tu as bien fait de ne pas en faire un avec lui. C'est quand même mieux d'avoir un peu d'estime pour l'homme que l'on fait géniteur.
Mais l'homme pour qui j'ai pris la plus grande estime ne couche pas avec moi.
Et pourquoi donc ?
Parce qu'il est homosexuel. Il n'a pas su quoi me répondre. Il savait que j'avais raison. Antoine s'était installé quasiment en même temps que moi sur la ferme voisine. Alfred, l'ancien propriétaire, était mort quelques années plus tôt. Il n'était pas du coin, et pour cause, il avait cherché l'endroit le plus isolé et le plus éloigné possible de sa région natale, le Cantal. Là-bas, il devait reprendre la ferme de son père, mais quand ses parents, et par voie de fait, les voisins ont appris qu'il préférait les hommes, ça s'est gâté. Il a reçu des lettres anonymes, subi des actes de vandalisme, des menaces de mort, et son père ne lui a plus parlé du jour au lendemain. Un truc de dingue. Lui qui est doux, sensible, le cœur sur la main, il n'a pas eu envie de lutter. Sa mère n'a rien fait pour trouver une solution. Elle trouvait aussi que c'était mieux pour lui de partir là où personne ne le connaissait. À moins que ce ne soit mieux pour eux. Antoine a voulu recommencer à zéro. Sinon, il aurait eu à se battre toute sa vie. Et se battre contre la bêtise humaine, autant essayer de faire mûrir des fraises sous la neige. Moi, j'étais franchement soulagée que ce ne soit plus Alfred, mon plus proche voisin. Ce n'était pas un sale type, c'était un type sale. Mon grand-père avait la force de ne pas s'attarder sur ce détail. Moi, je n'y arrivais pas. Nous y allions régulièrement pour soigner l'entente cordiale entre voisins et se soutenir dans les corvées collectives. Alfred Mayer était un fils de soldat allemand. Sa mère, tondue pour l'occasion, avait tenu à lui donner le nom de son père, pour lui offrir une chance d'ouverture vers le pays de son père, au cas où ça tournerait mal pour elle. Finalement, elle a appris quelques mois plus tard que le soldat en question était mort, abattu par des résistants à la libération. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle a donc pris la ferme de ses parents trop vieux, à bras-le-corps, et son fils a pris la suite, naturellement. Quand la vieille Berthe était morte, Alfred s'était retrouvé seul, paumé, incapable de prendre soin de lui et de sa maison. C'était un taudis. Une vache n'y aurait pas retrouvé son veau. La table, toujours encombrée de verres sales, servait de piste d'atterrissage pour la nuée de mouches qui volaient partout dans la pièce. Roissy Charles de Gaulle. Quand il proposait un coup à boire, il prenait quelques verres sales sur la table et les rinçait à l'eau du robinet. Moi, je n'avais jamais soif. Pépé était poli. Il prenait un coup de gnôle maison, ce qui avait pour effet positif de désinfecter le verre en même temps. L'odeur dans la maison et dans son sillage était pestilentielle. Et puis ce regard qu'il avait sur moi, un œil à moitié fermé et l'autre exorbité, me glaçait le sang. C'est le soir où j'en ai parlé à Pépé qu'il m'a suggéré l'idée du couteau et de la ficelle dans la poche. Et puis, un jour, nous sommes allés le voir pour lui emprunter une machine. On l'a cherché partout. Pas d'Alfred. C'était pourtant l'heure des feux de l'amour, le feuilleton qu'il ne manquait pour rien au monde. Le pauvre, ça devait l'aider à tenir la solitude. Même les rares commerciaux qui s'aventuraient chez lui savaient l'horaire à éviter. Nous avons fini par entendre le chien gémir dans la grange. Il tournait autour d'une balle de foin. En s'approchant, nous avons vu dépasser ses deux pieds et ses deux mains de chaque côté. Il devait être là depuis plusieurs jours parce que les mouches étaient toutes dans la grange. Avant de faire rouler la balle de 300 kilos, mon grand-père m'a suggéré de sortir la tendre dehors et d'aller prévenir les gendarmes. Je suis restée. J'en avais vu d'autres. Mais cette image-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Sous la balle qui l'avait tué, nous avons découvert Alfred, plat comme un crapaud écrasé sur la route. Deux fois plus large. Ce sont les pompiers qui ont rapatrié le corps aux pompes funèbres. Et je me suis toujours demandé comment ces dernières avaient fait pour le faire entrer dans un cercueil. Sa sœur aînée, qui n'avait aucun intérêt ni pour la ferme ni pour son frère, avait alors vendu l'exploitation à la commune. C'est Antoine qui l'a loué quelques années plus tard. On s'est entendu comme les deux doigts d'une main. Et il m'a annoncé rapidement sa situation pour dissiper toute ambiguïté. Nous sommes devenus les meilleurs amis. Il était propre, il sentait bon, et les mouches restaient dehors. Ce soir-là, quand je suis arrivée chez lui avec la lettre de Justin, c'est à lui que j'ai fait une déclaration d'amour, à laquelle il ne pouvait pas répondre. Quelques semaines ont passé, durant lesquelles ma mélancolie me suivait comme un petit nuage de moustique au-dessus de la tête les soirs d'été. On a beau faire un grand geste de la main, ils reviennent tourbillonner. Et puis j'ai commencé à évoquer l'idée d'aller me faire inséminer en Espagne. Je m'étais renseignée. Tout semblait assez facile. Trois jours après, j'ai trouvé sur mon bureau une fiche d'insémination avec un petit mot griffonné. « Jeune taureau au braque, fougueux, bien bâti, propose semence pour réaliser le rêve d'une jolie petite brune des Pyrénées. Production française. » Je suis restée assise un moment à ce bureau. C'était dingue comme idée. À la fois assez affolant pour expliquer à cet enfant ses origines, mais tout aussi séduisant d'imaginer avoir un enfant d'un homme que j'aimais vraiment d'un amour sincère. Après tout, même si nous ne vivions pas ensemble, même si nous ne couchions pas ensemble, pourquoi cela aurait-il été plus absurde que traverser les Pyrénées pour chercher quelques spermatozoïdes ? L'idée était de toute façon plus honorable que de faire ça avec le premier venu, au risque de tomber à nouveau sur un salaud comme Justin. C'était le père parfait à mes yeux. Pourquoi l'aurait-il été moins en étant homosexuel ?
Suzy sait qui est son père ?
Pour l'instant, non. C'est son parrain. Nous avons décidé d'attendre qu'elle soit un peu plus grande pour lui expliquer correctement les choses. Le fait qu'il soit parrain lui permet de la côtoyer et de l'éduquer comme un père.
Mais
J'ai une question peut-être un peu indiscrète. Comment avons-nous fait?
J'ai surveillé ma température tous les matins. Quand j'étais en période d'ovulation, 3 soirs de suite, Antoine venait à la maison, il s'enfermait dans la salle de bain pour son affaire et me donnait la seringue dans la foulée. Injection, poirier un quart d'heure et après, je ne me relevais pas avant le lendemain matin pour laisser toutes les chances aux spermatozoïdes de glisser dans le bon sens. Il fermait derrière lui. De toute façon, il avait une clé de chez moi. Nous avons essayé pendant 3 mois. Rien. Je ne prenais pas. Pire que mes plus mauvaises vaches. On en riait avec Antoine. Des formations professionnelles. Et puis, à la 4e ovulation, il est sorti de la salle de bain, sans rien dans la seringue. Il m'a dit
« Maintenant, ça suffit !»
J'ai cru qu'il renonçait, qu'il en avait assez de toute cette comédie ridicule. Je sentais les larmes monter. Il s'est approché de moi et m'a simplement dit
« C'est pas comme ça qu'on fait un enfant. »
Cette nuit a été la plus belle de ma vie. Je ne sais pas comment il a réussi. Il ne me l'a jamais dit. Mais je n'ai pensé à rien, qu'à son corps sur le mien et ce pourquoi nous le faisions. Peut-être en a-t-il fait de même. Ou alors, il a pensé à Orlando Bloom, à poil. Peu importe. Ce qui comptait, c'était qu'il arrive à faire quelque chose de son joujou avec une femme. L'acte en lui-même, il est vrai, fut très mécanique. Il a gardé sa tête dans mon cou tout le long, procédant à des va-et-vient réguliers, puis de plus en plus rapides. Il suait comme lors d'une journée de foin en plein été. Je me suis concentrée sur mon ovule, en l'imaginant chaud et lumineux, se promenant dans ma trompe, en attendant les assaillants. Et puis, il a émis un souffle rauque et m'a dit qu'il avait fini. C'est après que le moment a été formidable. Il a voulu remettre son caleçon. Moi, j'étais bien toute nue contre lui. Nous sommes restés enlacés jusque tard dans la nuit, cette fois-ci sans larmes. Il m'a décrit le supposé périple de ses représentants chromosomiques à la manière d'un commentateur sportif durant le Tour de France.
« Et le maillot à poids est maintenant en tête pour franchir le col de l'utérus, classé en 4e catégorie. La chaussée est particulièrement glissante et la visibilité réduite. Mais que se passe-t-il ? Le peloton s'est maintenant scindé en 2 groupes, l'un en direction de la trompe droite, l'autre à l'opposé. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Attention au dernier effort pour atteindre le sommet de l'ovule, la fin de l'étape. Mais qui gagnera le tour ?
Je ne riais pas, parce que je serrais les fesses très fort pour les garder au chaud. Mais comme j'étais heureuse. 9 mois plus tard, Suzy était là. Quand la sage-femme nous a annoncé qu'elle devrait passer sous la lampe à UV pour soigner l'ictère qui la rendait jaune, nous avons éclaté de rire. Suzy était bien la gagnante du Tour de France, avec son mini-maillot jaune.
Olivia sourit. Un vrai sourire, sans tristesse cachée derrière.
Et puis, il m'a demandé s'il pouvait reprendre un peu de poulet. Bien sûr, il est là pour ça.
Ben mince.
Moi qui comptais sur les restes pour le début de semaine.